Le Gros Cast, le podcast de Gros Pixels. Des pixels et du podcast.
Le 17 novembre 2011, le premier Gros Cast était diffusé. Nous ne savions pas alors que dans l'ombre, un sombre regard nous guettait. Les numéros s'enchaînent l'un après l'autre, 5, 6, 7, 8. Aujourd'hui, 9e numéro du Gros Cast. Nous allons revenir sur notre précédent sujet, soit le genre du survival horror, tel le zombie qui revient à la vie tant que sa tête n'est pas détruite. Mais que l'on ne se trompe, pourtant. Aujourd'hui, le sujet du Gros Cast ne sera pas le survival horror, ou même le jeu vidéo. Aujourd'hui, le sujet du Gros Cast, c'est ce sombre regard qui nous guettait. Aujourd'hui, le sujet du Gros Cast, c'est un homme, célèbre dans les contrées de Gros Pixel par ses répliques, sa candeur effrayant tout le monde, son esprit bien éloigné de nos préoccupations bassement terrestres. Tout un chacun le craint. Pour les siens, il est le faiseur de pluie. Son nom humain, cependant, est Rainmaker. Ce 9e numéro lui sera consacré. Bonjour, Rainmaker.
Bonjour à tous.
Comment ça va ?
Ça va bien.
Pour m'épauler dans cette quête, je reçois aujourd'hui Karl. Bonjour, Karl.
Hey, salut, parce qu'il fallait que l'équipe de modération soit là, parce qu'il y avait Rennes, quoi, donc...
Est-ce que tu te sens confiant pour le déroulement de cette émission ?
Écoute, non. Mais bien sûr, non, ça fait super plaisir d'avoir des gens du forum qui viennent, en plus. Par contre, il fait un pas de travers, je lui pète un genou.
Pour m'épauler également, Fred, alias Chapopey. Bonjour Chapopey.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va ?
Moi ça va bien, ça fait bien, il fait beau, tout va bien.
Pas trop effrayé par la lourde tâche
Oh, tu sais, j'en ai vu d'autres hein, dans ma vie.
Que... L'avantage, c'est qu'au parler, t'as pas forcément besoin de récupérer les fautes d'orthographe. On commence petit.
C'est bas.
Bien, alors commençons sans plus attendre. Rainmaker, nous écoutons ton auguste voix.
Écoute, vas-y, lance le sujet. Hein, parce que moi, si j'ai survécu à l'horreur, ça fait partie d'un de mes genres préférés. Donc, si tu me laisses la parole, je vais t'enquiller tes 2 heures d'émission et te monopoliser la parole.
Alors, on va gérer ça. Vas-y. C'est ton émission, c'est toi qui as la parole. Vas-y, de quel jeu, de quel aspect du survival horror veux-tu nous parler ?
Des jeux, à la limite, on pourrait revenir un peu sur le Resident Evil, si tu veux, ou même les Silent Hill, parce que j'ai trouvé que vous étiez passé un petit peu rapidement dessus. Et sinon au niveau du survival, moi je connais surtout à partir de la période PS1 parce que sur micro j'ai pas trop pratiqué. Mm-hmm. Donc je connais un petit peu les bases, j'ai vaguement vu des Alone in the Dark, mais j'ai jamais vraiment pratiqué. En fait, le seul Alone in the Dark que j'ai fait, c'est celui qui est sorti sur PS.
Ouais.
Je crois que c'est le 4, et j'en ai pas un souvenir vraiment vraiment formidable.
C'est vrai que Alone in the Dark est une série qui a surtout marqué les joueurs micro à son époque, mais ensuite son passage sur console avec les 4 et les 5 a plus décontenancé les habitués de la vieille école.
Ouais, mais c'est dommage parce que...
Donc il a fait ça, Eden Studio est plutôt pas mauvais habituellement.
Ouais. Mais oui, je me rappelle très bien, parce qu'à l'époque, je regardais les micro-kids, et donc je m'intéressais un peu à tous les genres, et c'est vrai que ça m'avait assez impressionné, ce montage un peu cinématique, toute l'histoire en elle-même, quoi, la construction, tout ça, ça avait l'air super super intéressant, mais bon, n'ayant pas de PC à l'époque... J'ai jamais pu m'y essayer.
Et en émulation ou
En émulation, En fait, comme je t'avais dit, je tourne avec un vieil ordinateur et une config un peu à la mimine, donc bon, c'est pas terrible l'émulation.
Alors, cela dit, enfin les trois Alone in the Dark qui sont sortis sur micro, je parle pas du 4 ni de l'autre, sont régulièrement trouvables soit chez GOG, soit chez Dotemu, et tournent sur n'importe quelle bécane, car on va dire moins de 15 ans d'âge. Donc c'est très facile de s'y remettre.
J'ai essayé Duke là sur GOG, ouais. Il tourne pas chez moi.
Ah d'accord.
Ah oui, effectivement, voilà. Oui, c'est un PC antédiluvien que tu possèdes.
Non, il est pas si vieux que ça, mais bon, je sais pas pourquoi, j'ai des incompatibilités comme ça.
Alors, bon, cela dit, enfin, se mettre à Alone in the Dark le premier aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'y a pas joué à l'époque, ça doit quand même faire un choc, hein, parce que dans le dernier podcast, les gars, vous parliez de la rigidité de Resident Evil, le premier du nom. Mm-hmm. Dans Alone in the Dark, je crois que c'est encore pire. Hein. À l'époque, c'était bon quand il est sorti, on était tous sur le cul parce que il y avait la 3D, de la vraie 3D avec les polygones, ce qu'on avait jusque-là quasiment jamais vu. Quand on voyait à l'écran dans des émissions justement comme Micro Kids des scènes de in-game, on disait mais non, c'est pas dans le jeu, on ne dirige pas comme ça, c'est des trucs précalculés, enfin c'est pas jouable comme ça, si ça l'est. T'ajoutes à ça effectivement tous les plans de caméra, la mise en scène qui était vraiment pensée comme un film. Pareil, on n'avait pas vraiment vu ça jusque-là, donc c'était une révolution. Et en plus, on était à l'époque, là, début des années 90, enfin, en ce qui me concerne, et puisqu'il concerne mes potes de l'époque, on était dans des phases de jeux de rôle, et notamment l'Appel de Cthulhu. Donc, pouvoir jouer d'un jeu qui était présenté, même si c'était pas vraiment le cas, comme étant une adaptation de Cthulhu, encore une fois, c'était pas le cas, mais on était quand même dans cet esprit-là.
Enfin, une adaptation de... Si, c'est, on peut dire que c'est une adaptation de l'univers de H.P. Lovecraft en
oui,
vidéo.
Oui, mais pas de... ouais, mais c'était pas... Enfin, l'histoire est assez... L'histoire de la parenté entre Alone in the Dark et Cthulhu, je crois qu'elle est, pas très, très très claire. Il y a...
Oh, tu retrouves quand même le Necronomicon...
Oui, tu retrouves des éléments, mais... Il y a une histoire comme quoi il avait été à l'époque, c'était censé au départ être une adaptation. Il devait même s'appeler L'Appel de Cthulhu, je crois.
Oui, tout à fait. Oui.
Et que pour je ne sais plus quelle raison, ça s'est pas fait. Ça se trouve peut-être une histoire entre Bonnel et Renal, je sais pas, mais bon. Enfin, toujours est-il que qu'à l'époque, voilà, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, quand j'y rejoue. J'y prends toujours du plaisir en faisant, parce que je fais fi de cette maniabilité vraiment particulière. Mais des joueurs qui sont passés par les derniers Survival Horror et autres vont quand même être rebutés.
Ah, mais ça, c'est le destin de tout genre de jeu qui existe depuis dizaines, des vingtaines d'années.
Ouais, mais non, parce que tu as des jeux qui ont gardé une maniabilité. Nickel, enfin, le nombre de jeux de plateforme, par exemple, sur Super Nintendo, tu rejoues aujourd'hui, ça te pose pas un problème tu ne vas pas dire, oh, la maniabilité, merde, c'est lourd, c'est poussif, etc.
Ouais, mais c'est de la 2D aussi.
Oui, c'est sûr. Là, après,
mais les maniements 3D, lors de l'ère PlayStation Saturn, il y a énormément de jeux en 3 dimensions qui se cherchent encore au niveau de la maniabilité, du placement des caméras, qui peuvent être assez compliqués à jouer aujourd'hui. Rainmaker, t'avais parlé récemment sur le forum de Fade to Black, notamment que tu avais repris, ouais. Si je me rappelle bien. Fade to Black, c'est encore de la 3D expérimentale, hein, à l'époque où c'est sorti sur PlayStation. Donc, c'est propre à ce genre de jeu, plus qu'à l'époque de sa sortie. Resident Evil, au début, qui avait une maniabilité très carrée, comme ça, Resident Evil 1, 2, 3, quand on est passé à Resident 4, Resident 5, Resident 6, ils ont pris un angle de vue qui s'apparente plus à un Gears of War, à un TPS, justement, pour essayer d'améliorer un peu cette jouabilité.
Ouais, non, tout à fait, parce que de toute façon, à l'époque, comme tu dis, ils cherchaient un peu la joie... Bon, Resident Evil, ça m'a jamais posé de soucis, la maniabilité, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de penser à appuyer sur O pour avancer. Je vois, par exemple, j'avais joué aussi à la même période à Final Fantasy VIII.
Oui.
Ça a rien à voir, mais eux, ils avaient adapté une jouabilité, on va dire, 2D, où en fait, en fonction de... Enfin, même pas en fonction d'où est ton personnage. Quand ton personnage est au centre de l'écran, pour redescendre, t'appuies sur bas, pour monter sur haut, et bon, ils sont pas embêtés plus que ça, quoi.
Mm.
Donc, après, ouais, c'est toujours... Enfin, c'est un des grands soucis de la 3D au début. Je sais que ma femme, par exemple, elle n'arrive pas du tout à bouger en 3D, même sur un Mario, parce que c'est pas forcément évident.
Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec la vue isométrique ou même avec la 3D.
Oui, tout à fait. Oui. Ça demande. C'est
pas mal de gens qui ont des problèmes avec la vue dans l'espace, que ce soit en ISO ou en 3D pur. Et rajoute à ça une caméra fixe mal fixée ou alors une caméra libre que t'as du mal à gérer et là c'est le drame quoi.
Mmh, tout à fait ouais.
Mais j'avais travaillé un peu parce que comme je fais un petit peu de développement, j'ai eu l'occasion de travailler sur la 3D. C'est vrai que c'est assez pénible parce que tu sais jamais en fait quand tu veux faire des rotations ou ce genre de transformation mathématique, tu sais jamais comment te placer, s'il faut que tu prennes le personnage comme centre du centre de rotation, ou si c'est autre chose, suivant les personnes, la sensibilité est vraiment différente, et je comprends que les gars galèrent, quelque part, le TPS, donc la vue de dos, ça a quand même solutionné pas mal de problèmes.
Mm. Tout à fait, oui. Ça permet de toujours garder le joueur en premier plan de l'écran, même si en contrepartie on a une vision d'ensemble plus réduite de par le fait. Ça pouvait être compliqué dans Resident Evil 4 parfois de s'orienter dans des espaces plus ouverts, parce qu'on avait du mal à situer les ennemis et les éléments du décor par rapport à son personnage.
Tu t'es acharné sur le 6 quand même.
Ben je suis en train et je suis en pleine campagne de crise et c'est atroce quoi. C'est vraiment c'est plus du tout un Resident Evil, ils ont essayé de faire un
Gears of War. Hein.
Non, même pas, parce que c'est je dirais pour schématiser, c'est un jeu à l'américaine quoi. T'as petite scène d'action, cinématique d'un quart d'heure, scène d'action, c'est assez saoulant quoi. Je me semble avoir vu à l'époque des news où ils disaient que il y avait un truc comme 10 heures de cinématique, et je pense que c'est tout à fait ça, quoi. Tu passes plus de temps, en fait, à mater des vidéos qu'à jouer, quoi. Et on peut pas les appeler.
Voilà. Voilà. Il faut brûler les cinématiques, je le dis.
Non, mais c'était bien les cinématiques à l'époque, mais bon, maintenant, les
ouais.
gars, je sais pas.
Dans Alone in the Dark, c'était bien. La première cinématique, l'intro, ouais. Là, t'étais content de voir ça, parce que c'était nouveau. Après, c'est devenu du n'importe quoi. On en a mis à toutes les sauces. Ouais.
Ah. C'était mieux avant, ma bonne dame. Tout ça, c'est la faute au satellite.
Donc Alone in the Dark, jeu micro qui a marqué. Je me suis regardé il y a pas longtemps, il était disponible sur YouTube, la nuit des jeux vidéo de 1993, qui était en fait une version longue d'un micro kit où Blottier interviewait une partie de l'équipe de développement d'Alone in the Dark 2 qui venait tout juste de sortir en 93, où déjà les développeurs mettaient en avant le fait qu'ils voulaient rendre le jeu de plus en plus cinématique, avec une histoire de plus en plus prégnante. On sentait déjà une accointance de toute façon entre le genre du survival horror et le cinéma. Peut-être que c'est là un genre qui a le plus d'affinité avec le 7e art. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, dans le cas de Alone in the Dark, enfin le 2, j'ai pas trop joué parce que j'avais un peu abandonné tellement je trouvais dur par rapport au premier, enfin sur le plan de l'action par exemple. Mais le 1, enfin rien qu'il suffit de regarder sur YouTube par exemple l'intro de Alone in the Dark et tu retrouves vraiment des éléments cinématographiques. T'as un moment dans l'intro, alors que tu ne joues pas, t'as un plan en plongée qui te laisse deviner qu'il y a une créature qui observe Carnby ou Emily, ça dépend qui tu joues. Ça, c'est un plan donc vu d'une fenêtre du manoir. C'est des trucs qu'on retrouve dans Edward en argent lors de l'arrivée de Peg au château. C'est un truc que tu retrouves dans d'autres films. Donc c'est clairement Alone in the Dark, c'est clairement inspiré de tout un tas de films dans ce domaine-là. Alors C'est effectivement le survival horror, un genre qui se prête bien à la parenté avec le cinéma, d'autant que tu as quand même beaucoup de joueurs de l'époque puis actuelle pour qui le cinéma, et notamment le cinéma fantastique, était un domaine de prédilection. Tu vois, il y a une parenté des joueurs, je caricature peut-être un peu, mais enfin, les joueurs de jeux vidéo, j'ai souvent beaucoup d'affinités avec les films fantastiques, et inversement.
C'est vrai que les films d'horreur en particulier, mettons les films de zombies, donc que l'on pense à Romero, Dawn of the Dead, Evil Dead, etc., ont toujours fait partie d'une certaine culture geek.
Ouais. Si on peut dire ça rapidement. C'est considéré comme une sous-culture, donc forcément, on sent des affinités. Les jeux vidéo, c'est encore pire d'ailleurs dans ce domaine-là, sur le plan de la considération. Donc ça se prête bien effectivement le genre survival horror avec le cinéma.
Tout à fait. Et donc les premiers jeux vraiment qu'on a baptisé un peu plus tard, parce que le terme de survival horror, on le rappelle, est un terme qui a été inventé par Capcom pour Resident Evil, même si le genre existait auparavant. Lors des dernières missions, on avait cité Sweet Home, qui est le jeu japonais apparemment qui aurait inspiré la série Resident Evil. J'avais parlé rapidement de Clock Tower, peut-être que j'y reviendrai dans le courant de cette émission. L'actualité nous donne sur Wii U, du reste, un autre exemple, puisque Zombie U se place dans la mouvance de Zombie, donc d'Ubisoft de 1986, qui s'inspire de ces films de zombies de Romero qu'on évoquait à l'instant, donc Dawn of the Dead notamment, avec cette mise en scène dans le supermarché. Karn, il me semble que tu voulais nous parler de zombies et de Zombie U avant l'émission. Qu'est-ce que tu peux nous en dire alors de cette approche du survival horror qui est bien différente des derniers Resident Evil?
Hardcore, hein, mais tu es malade, tu es le patient zéro. Oh mon dieu! Zombie U, je ressors avec un avis quelque peu mitigé. C'est génial dans le concept, dans l'utilisation de pas mal de choses. Mais après, il y a des choix qui sont peut-être un peu trop hardcore aujourd'hui par rapport à ce qu'on a été habitué. Pourtant, je suis un fervent défenseur du fait de dire « Bon, allez, on va arrêter de se faire prendre par la main. » Mais autant là, il y a des trucs un peu trop putassiers pour moi. Donc après, si tu regardes les leaderboards, il y a des gens qui arrivent à le finir en une vie, machin, etc.
Je ne sais pas comment ils font, parce que c'est...
Et à partir du moment où tu connais les pièges putassiers pour... Bon,
bah, quand tu connais les scripts...
Attention,
oui.
Chers amis, il va y avoir du spoil. C'est quand tu connais le moment où tu vas tomber sur un zombie qui est avec tout ce qui est éléments... De bombe sur lui, où tu lui mets un simple coup de batte de criquet sur le museau et qui explose. Donc là, déjà, c'est le genre de truc que ça fout méchamment les nerfs. Quand tu connais les 2-3 endroits où t'as des trucs scriptés pour te faire bondir, voilà, bon, Die and Retry, ok, mais dans ce cas-là, pas avec les codes d'un jeu où t'es censé survivre. Donc ça, déjà, ça m'a un peu gonflé. Après, y a certains partis pris au niveau de la gestion de l'inventaire et de tout le reste. On tombe rarement en pénurie de balles si on joue correctement. Et enfin, ça me laisse Moi, j'ai beaucoup apprécié le ride, mais j'ai pas envie de relancer la galette, quoi.
Ouais.
Par contre, s'il y a quelqu'un qui veut découvrir la Wii U ou qui a envie de voir un jeu un peu différent et qui aime les séries Z et tout le reste, je prendrai plaisir à l'accompagner pendant l'aventure.
Ce que j'ai beaucoup apprécié dans Zombie U que j'ai fait également, je l'ai pas encore fini. Je suis à la fin de mon premier run, mais j'espace un peu en ce moment mes sessions de jeu. C'est le fait qu'on se focalise donc d'une part énormément sur la survie et que on retombe dans cette politique malgré tout où on n'est pas un marine surentraîné qui va blaster des corps sur son passage comme on peut le voir aujourd'hui, mais on est un être très frêle, on meurt régulièrement. Moi, je meurs, j'ai déjà épuré 4 à 5 personnages de façon très très stupide, aussi prudent sois-je, parce que je me fais toujours avoir à un moment donné par une vague, par un piège que je n'avais pas vu venir. Et j'ai comme la sensation, malgré tout, que c'est quelque chose qui s'est perdu aujourd'hui, qu'on a voulu mettre l'accent sur le nombre, comme dans un Dead Rising, par exemple. Donc, ce qui donne des sensations très agréables, mais qui éloigne malgré tout de l'essence du genre, qui pour moi, c'est vraiment comme dans le tout premier zombie, la survie, gérer la faim, la soif. Les personnages ne sont pas forcément habilités pour le combat.
C'est clair, de toute façon tu ne gères pas la faim et la soif, étant donné que tu peux mourir même en ayant ta barre de vie complète.
Oui, tout à fait.
Bon, après, jusqu'au milieu du jeu, et là on va arrêter les spoils, où t'as quand même une possibilité de t'en sortir de façon assez facile et de survivre un peu plus facilement.
Tout à fait, mais c'est vrai que c'est quelque chose, tu disais, voilà, que c'était des choix de gameplay qui pouvaient paraître un peu anachroniques par rapport à la production d'aujourd'hui. Et
c'est pas qu'une question d'anachronisme. Je pense que c'est un parti pris qui est intéressant en tant que tel, parce que c'est ok, mais dans le parti pris, soit tu vas à fond. Je trouve qu'il y a des concessions dans le parti pris au niveau game design et gameplay, et antinomique par rapport au parti pris de base. Tu vois, cet esprit du zombie qui explose quand tu lui fous un coup de batte de criquet et qu'on a mis spécialement dans une salle pour être sûr que tu crèves. Dans un Die and Retry, où l'importance de refaire les mêmes situations par rapport à l'apprentissage, je peux le comprendre. Même dans un Demon's Soul ou un Dead Soul, c'est pareil. Tu as ce principe de die and retry, mais tu vas avoir quand même une possibilité de t'en sortir, et c'est moins putassier que dans ce cas-là. Là, c'est tellement putassier que t'as envie de balancer la manette, t'as envie de balancer le jeu, balancer le truc et dire arrêtez de me prendre pour un con. Ok, j'ai compris le parti pris, mais arrêtez de me prendre pour un con.
Mais n'est-ce pas là le but de tout survival horror, te faire sentir faible et désemparé et te faire
toute façon. Non, parce que ils avaient pas besoin de ça, parce que c'était déjà le cas dans l'ambiance qui est mise en place, dans le scénar qui est derrière, qui est très série Z, mais moi je suis très client, donc forcément ça ne peut que fonctionner. Il y a plein de petits clins d'œil dedans qui sont super intéressants, il y a plein d'environnements qui sont hyper intéressants, et il y avait pas besoin de ça. C'est de toute façon la tartine au beurre de cacahuète et à la confiture auquel tu vas rajouter du Nutella parce que c'était pas encore assez lourd. Et pourtant les gens aiment le beurre de cacahuète, ils aiment la confiture, ils aiment le Nutella, mais les trois ensemble c'est trop. Et donc voilà le truc qui me perturbe, parce que tu vois, autant j'aurais pris un pied phénoménal à refaire un run en une seule vie si ça avait pas été si putassier sur certains points. Et aujourd'hui le montant de jeu étant limité, comme le tien, comme pour beaucoup de monde, et ben je préfère le passer sur autre chose, alors que je suis sûr que j'aurais pris un pied phénoménal à faire un deuxième ride, voire un troisième ou un quatrième là-dessus, s'il n'y avait pas eu ces moments ultra putassiers qui n'apportent rien et qui justement désespèrent. Et le désespoir dans ce sens-là, tu peux l'instiller et le distiller de façon totalement différente. Et je suis très remonté par rapport à ça, parce que le jeu, je le trouve fantastique. Je trouve que le parti pris qui est pris est vraiment très bon, qu'il y a énormément d'éléments de gameplay qui sont géniaux dedans, que c'est vraiment un survival en lettres d'or et qui redonne les lettres de noblesse au niveau des survival, mais que ça casse tout et ça m'énerve. Donc voilà.
C'était la gueulante de Karl.
Ah non, j'étais calme là.
Rain, est-ce que t'as eu l'occasion de t'essayer à Zombie U ou
Non, du tout. J'ai vu que des vidéos. Par contre, j'avais une question pour toi, Karl. Est-ce que ces moments putassiers, est-ce qu'ils sont scriptés, donc dans un deuxième run, est-ce qu'ils arriveront exactement au même endroit?
Oui, ils arriveront exactement au même endroit, mais comme je te dis, un Die and Retry, c'est intéressant parce que tu peux, t'as pas cet esprit de devoir survivre sur la même personne, et pas cet attachement, entre guillemets, à ton personnage. tu connais absolument pas, t'as aucun background du personnage, mais au bout d'une heure ou deux, où t'es en train de te balader dans les égouts, dans la ville, dans les machins, etc., que t'as réussi à survivre à des trucs totalement improbables, qui crèvent à ce moment-là, je peux te dire, c'est une vraie déchirure. Bon, c'est là qu'ils ont bien joué leur jeu, hein, c'est très bon.
Mais moi, j'appréciais voilà, énormément après nous retrouver, retrouver son ancien personnage en zombie et lui casser la gueule. Je sais pas pourquoi, c'est, j'ai vu ça comme une petite vengeance sur le jeu. En disant je vais pouvoir aller plus loin que ce que je suis allé auparavant. J'ai dans ma tête, ça m'a un peu fait rapprocher cette sensation de ce qui se passe dans un Super Meat Boy où à la fin tu as le replay de toutes tes tentatives qui se juxtaposent jusqu'à ce que tu aies le Meat Boy, le seul et unique qui parvient finalement à terminer le niveau. Ça m'a fait un peu le même effet. Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, mais c'est marrant. Moi, j'ai pas eu Moi, j'ai eu l'impression que ils avaient beaucoup apprécié l'histoire des taches de sang dans Demon's Soul et dans Dead Soul, qu'ils avaient trouvé quelque chose d'intéressant par rapport à ça, et que ça te permettait de retourner sur la zone où t'étais et avoir un plus et rajouter une certaine tension, sachant que encore une fois, par rapport à pas mal de scripts dans le game design et par rapport à certaines relations, enfin réactions de l'IA pendant le jeu, il y a des fois où tu vas pas réussir à revenir jusqu'à ton point où t'as crevé, ou alors tu vas arriver à un endroit où t'étais surarmé avec ton perso précédent et où ça aurait pu passer piece of cake avec un pistolet à bouchon et dire ouais mais j'aimerais bien récupérer tout ce que j'ai récupéré avant, laissez-moi passer messieurs, et voilà. Mais il y a des fois tu vois, il y a deux trois trucs même au niveau de l'IA. Pourtant c'est un jeu que j'adore, hein. c'est franchement je trouve que c'est un excellent produit, que c'est très très bien, mais il y a deux trois trucs dedans, des points de réglage qui pour moi sont totalement rédhibitoires. Que ce soit l'IA, que ce soit ces moments putassiers, et c'est dommage.
Alors, Survival Horror, entre équilibre très difficile à trouver, entre progression du personnage, entre frousse qu'on peut ressentir. Rainmaker, je ne t'oublie pas. Si tu devais te rappeler d'un moment qui t'a vraiment fait sursauter dans un survival horror, que nous dirais-tu?
Sa femme est rentrée dans la chambre. Voilà.
Sursauter, ouais, il y en a eu quelques-uns, mais bon, je suis pas non plus client vraiment. Enfin, je suis pas très déjà pour les films pour rigoler. Bon, c'est assez dur, mais sur le survival aussi, je dirais la fameuse scène la première fois, donc dans Resident Evil où les chiens traversent la fenêtre.
Ouais.
Donc chose à laquelle tu t'attends pas. Et même quand je l'ai refait une deuxième fois, en fait, je suis passé dans ce fameux couloir dans l'autre sens et je m'attendais à voir les chiens qui sont jamais arrivés. C'est quand je suis reparti dans le bon sens et donc ça a déclenché le script où là j'ai encore été surpris. Mais sinon plus, enfin le jeu où j'ai vraiment eu de la tension à y jouer, c'est le premier Silent Hill, parce que j'ai joué à ce jeu après Resident Evil, donc j'avais pris des réflexes un peu plus bourrins où il y a des balles, je m'en sers, je flingue, et adviendra ce qui adviendra, enfin voilà. Vous m'avez compris. Et en fait, je me suis retrouvé comme un con devant le premier boss avec plus de balles et devoir le finir à la barre à mine. J'ai réussi à le tuer, mais après j'ai abordé le jeu d'une autre façon, parce que voyant qu'il y avait très peu d'items de soins et de balles, là c'était vraiment de la fuite. Et c'est vrai que quand on rentre dans cette optique-là, avec le brouillard, les chiens qu'on entend mais qu'on voit pas, c'est vraiment plus, enfin on a vraiment une grosse tension, et c'est encore plus démesuré à la fin, en fait. Bon, je spoil pas trop, mais en fait où on jongle entre le monde réel et le monde normal, et il y a toute une scène avant d'arriver au boss de fin où on cavale dans le noir avec des chiens qu'on voit pas qui nous poursuivent, et là où j'ai vraiment senti, pas une peur panique, mais bon, j'avais vraiment hâte d'être à l'abri, quoi.
Silent Hill arrive à faire une ambiance avec trois fois rien, finalement, parce que c'est de la suggestion plus que c'est le brouillard, c'est un environnement sonore, et ça fonctionne au-delà de toute espérance. On a énormément parlé lors de la dernière émission du deuxième Silent Hill,
Le 4 est pas mal dans le style aussi, hein, tu sais, au niveau
Le 4, c'est The Room.
The Room, ouais, c'est ça.
Mais
The Room, ouais.
J'ai moins accroché.
Ouais,
à celui-ci.
Moi j'ai bien aimé justement ce principe de huis clos où tu te retrouves à être dans une pièce fermée et te dire, bah, tiens, voilà, le monde parallèle derrière, il t'amène dans un truc beaucoup plus grand, mais totalement torturé. Et ça fait vraiment film d'horreur psychologique très poussé.
On est dans l'échelle de Jacob.
Ouais, c'est ça,
voilà.
C'est justement ça qui m'a plu dans cet épisode, dans le 4, qui est pas le meilleur épisode. Hein, je me battrai pas bec et ongle pour celui-là, mais j'en garde un bon souvenir par rapport à ça, justement par rapport à cette guerre psychologique qui.
Tous ces petits détails.
Ouais.
Il y a un moment, je sais plus. Tu regardes par le trou de la serrure et il y a un œil qui t'observe. Enfin, c'est des trucs
ouais,
comme
voilà,
ça.
C'est
hein,
ça
ouais.
Ouais.
Ouais. Quand tu connais pas trop l'univers, parce que moi c'était, on va dire que c'était mon premier presque Silent Hill, hein, le 4.
Ouais, t'es parti avec un compliqué, ouais.
J'avais fait le premier, un petit peu, on va dire. Et j'étais pas allé très très loin parce que
je sais plus pourquoi. Tu t'es arrêté à la scène du piano.
Je sais même plus.
Un quiz musical, t'as perdu.
Non, mais j'avais.
Les lignes du piano qui a donné des surfroides à tout le monde.
Non, moi j'avais été, c'était la sonnerie du téléphone, là. Ça m'avait fait sursauter, flipper. C'est dans l'école, c'est ça?
Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais.
Après, le reste, j'ai pas trop de souvenirs de Silent Hill. Hein. Mais bon, de toute façon, moi, les jeux sur Sound the Beats, j'ai pas vraiment pratiqué.
Oh, il y a quand même des scènes dans le premier Silent Hill qui sont restées. Bon, il y a toute la découverte de l'école qui a été censuré en version européenne, comme vous le savez, puisque dans la version originale, c'était des petits enfants que l'on massacrait, et dans la version européenne, ça a été remplacé par des monstres lambda. Il y a la première découverte de la ville, de ce brouillard, où justement, il y a les chiens, la première traversée de l'autre monde, où les trottoirs sont remplacés par des grillages. Il y a toute une symbolique très forte dans Silent Hill, de toute façon. Si vous cherchez un peu sur Internet, on peut trouver d'excellents sites, en français notamment, qui font une analyse très fine de la symbolique de Silent Hill, parce que les auteurs sont des du jeu vidéo, ont énormément lu Freud, Lacan, jouent avec ces peurs primitives et la psyché humaine en particulier, et tissent vraiment un réseau de significations très complexe pour qui s'y attarde. Ça a vraiment été Silent Hill, une série qui a marqué le genre du survival horror comparé à Resident Evil. J'ai toujours été plus attaché, personnellement, vous allez me dire ce qu'il en est, au jeu d'horreur psychologique, même si j'apprécie les Resident Evil de l'autre côté, mais je trouve qu'il y a un plaisir dans l'horreur psychologique qui est plus profond. C'est justement cette question de tension dont tu parlais, Rainmaker. C'est-à-dire, j'ai plus la sensation que dans un Resident Evil, la peur va être très ponctuel lors de script, quand les chiens défoncent les fenêtres, qu'un zombie surgit du placard, etc. Alors que les Silent Hill vont nous mettre dans un état de stress permanent, beaucoup plus insoutenable me concernant. Je ne sais pas si vous considérez la chose de la même façon, mais c'est comme ça que j'ai tendance à le ressentir, tout du moins.
Tout à fait raison. De toute façon, Resident Evil, c'est on va dire un peu plus guerrier qu'un Silent Hill, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais bon, en même temps, vu la direction qu'ont pris chacune des séries, c'est dommage à dire, mais bon, dans un Silent Hill, les deux derniers, bon, on n'en a plus trop ça, quoi. C'est un peu trop rentré dans le rang.
Oh, Shattered Memories est bien.
Oui, mais c'est peut-être le dernier, hein, parce que après tu regardes ce qu'ont fait les studios américains, c'est quand même devenu un peu too much, quoi.
C'est comme la différence que tu opères entre les effectivement les Silent Hill et les Resident Evil, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le cinéma entre pas d'un côté on va dire les films de zombies ou d'infectés et puis tout ce qui est la vague des films
Michael
japonais et les films japonais à base de petites filles avec des cheveux longs et mouillés, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement les films japonais, enfin ce genre de films, ont un côté beaucoup plus flippant, beaucoup plus dérangeant que les films de zombies où bon, on n'est pas quand même, on joue pas sur le même registre, c'est pas du tout la même chose. Après, moi je sais que pour les jeux, enfin si je continue sur les films, quand j'avais vu Ring, ouais, j'avais beaucoup aimé, et puis après j'ai vu le 2, et puis après il y avait The Grudge, et puis après il y avait Darkwater, enfin il y en avait plusieurs. Au bout d'un moment, c'est un peu l'overdose de.
Oui, bien entendu. Ouais.
Autant je peux me gaver de films de zombies, mm-hmm. autant des films, les films vraiment flippants, comme ces films de fantômes, de machin, au bout d'un moment, ça devient difficile. Pour les jeux, c'est un peu pareil, tu vois. Les Silent Hill, j'ai essayé le 1, j'ai essayé le 4, j'ai essayé l'opus sur PSP, je sais plus lequel c'est.
Oui.
Origin, c'est ça. À chaque fois, il y a un moment où j'ai un peu plus de mal, je trouve ça justement plus dérangeant que les Resident Evil, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'arrive pas à les poursuivre, si tu veux, aller jusqu'au bout.
Le problème de ce genre de jeu, enfin à mon avis, après tout peut se discuter, mais c'est que lorsqu'on s'aventure dans cette horreur-là plus psychologique, on va dire, pour parler plus rapidement, il faut que l'exercice soit très très bien maîtrisé. C'est-à-dire, il faut que le développeur parvienne à nous embarquer dans leur univers, dans leur ambiance, qu'on n'en ressorte pas, qu'on soit vraiment tenu par cette tension constamment. Et si jamais ça retombe, c'est très difficile d'y revenir. Resident Evil, c'est un jeu où on est poussé à l'avant, parce qu'il y a une composante action qui est là. Mmh. qui demeure, donc on est toujours très très actif dans la progression du jeu. Silent Hill ou les jeux psychologiques comme ça, c'est le jeu qui doit nous prendre par la main et vraiment nous donner des petits indices, des petits bouts de carottes pour nous faire avancer au fur et à mesure. C'est quelque chose que Silent Hill 2, par exemple, à mon sens, faisait très bien par l'intermédiaire du personnage de Maria, par exemple. Ou quand on la rencontre et puis quand on va essayer de la protéger, de la suivre, c'est le petit bout de carotte qu'il nous faut pour progresser dans l'aventure. Il n'y aurait pas cette balise-là déjà, ça serait beaucoup plus compliqué. Dans le premier Silent Hill, c'est le fait de devoir chercher notre fille, où on a des indices au fur et à mesure qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de continuer à jouer. C'est le scénario qui nous tient. Dans Resident Evil, qu'on en apprenne plus sur le virus TZX, virus banana, on en a un peu rien à foutre, puisque de toute façon, on défouillera ira du zombie, et puis quand c'est pas des zombies, c'est des hunters, et quand c'est pas des hunters, c'est des tyrans. On s'en contrebalance un peu de l'histoire. On l'a bien vu la dernière fois quand j'ai demandé de me résumer l'histoire de Resident Evil. Bon, ça devient compliqué à suivre. Alors que l'histoire de Silent Hill, bon, on arrive quand même à voir, quand on a fait le jeu, ça se tient, il y a un scénario qui est fait, ça se prend relativement au sérieux, mais si ça dérape un peu, au bout d'un moment, on sort de l'univers et puis c'est terminé, quoi. Donc, c'est pas facile d'être développeur de jeux vidéo de survival horror, c'est pas évident. Donc, je vais vous proposer de faire une petite pause musicale avant de reprendre nos discussions.
Ça me paraît pas mal comme plan. Ouais.
Voilà, c'est un excellent plan. Je vais vous proposer l'introduction de Alone in the Dark 2, donc épisode légèrement conspué après l'excellent premier opus. Frédéric Henan n'était plus aux commandes, bien sûr, mais l'environnement musical mérite quand
c'est
même
dur de faire mieux,
s'y
hein.
attarde. Et l'on se retrouve de suite après pour continuer sur les survival horror. À tout de suite. We'll be right back. De retour pour cette deuxième partie du broadcast spécial Rainmaker. Et c'est encore à toi que je vais m'adresser, puisque c'est un secret pour personne, tu es assez fan du genre des survival horror, et je me suis laissé dire que tu en avais une belle collection, notamment sur 32 bits, sur PlayStation, et aussi sur PlayStation 2. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de quelques-unes de ces perles que toi seul connais?
Bah moi seul, j'espère pas, parce que quand même il y a quelques, comme tu dis, quelques perles qui mériteraient d'être découvertes ou redécouvertes. Pardon. Et donc au niveau perles, je vais vous citer d'abord les moins connus. Donc je dirais comme ça là, ce qui me vient à l'esprit, c'est Echo Night Beyond.
Ouais.
C'est un jeu qui est plus horreur que survival, parce que ce jeu a une approche assez démentiel, ce que en fait il nous conjugue donc deux grandes passions dans ma vie, donc le survival et l'espace. Donc en fait c'est un survival dans l'espace qui se passe plus précisément, si je dis pas de bêtises, sur la Lune. Et donc nous sommes dans une base lunaire et nous devons découvrir pourquoi notre charmante petite amie a disparu. Et donc tout le jeu est un jeu en fait d'exploration et d'énigmes, parce qu'il y a pas du tout de combat, mais il est tellement captivant que en fait c'est vraiment un bonheur de le parcourir. Sinon je vous citerai, bon je crois que vous en avez parlé la dernière fois, de Sirène, où là par contre
Ben, j'en ai un souvenir. C'est absolument fantastique, Sirène.
J'allais le dire le coup.
Argumente, parce que là, je ne démords pas, Siren, c'est absolument fantastique. Vas-y. Comment vous...
Non, le jeu en lui-même est
Tiger
vraiment sympa. Le coup des Kibito et même l'univers est absolument formidable. Mais pour le déroulement, c'est une catastrophe.
Mais non, c'est pas une catastrophe, c'est ça qui est génial dans le jeu, le principe des épisodes vus par différents personnages, le
Non, mais le principe.
Excuse-moi, fallait que ça sorte.
Non, le principe est, je te suis là-dessus, il y a aucun problème, c'est vraiment génial, mais je veux dire, quand tu veux progresser dans le jeu, où faut que tu débloques un truc pour qu'ensuite ça débloque un nouvel épisode qui va en débloquer un autre. Là, par contre, j'ai vraiment galéré. J'ai dû prendre une soluce, et même avec une soluce, les connexions entre épisodes et faire des actions anodines qui vont débloquer quelque chose dans une autre, c'est sur le principe c'est bien, mais t'as aucun aiguillage. Je sais que j'ai refait des missions une dizaine de fois. Sans comprendre ce qui me manquait pour débloquer quelque chose, et j'ai vraiment crisé, quoi.
Et c'est ça, justement, tu vois, on parlait tout à l'heure du principe de pas se faire prendre par la main, et justement, tu te rajoutes une surcouche supplémentaire par rapport à ça, contrairement à Resident Evil, où, alors, tu as trouvé la licorne que tu vas pouvoir mettre sur cette fameuse fontaine, il manquait quelque chose. Mais ouais, mais voilà quoi, c'est ça qui est hyper intéressant. Il y a vraiment un parti pris dans ce jeu, c'est pareil quoi. Moi j'aime bien les partis pris dans les jeux, je pense que vous l'avez compris. Mais voilà, c'est ce qu'il y a de génial dans Siren, c'est que t'as vraiment ce principe. Pour moi, c'est un Silent Hill, mais encore un cran au-dessus au niveau de la glauquerie. Tu parlais, cher Popeye, tout à l'heure des films Jap, Tip Ring et Co. Et t'as vraiment cet esprit dans Siren. Dans le New Translation qui est dispo sur PS3 par épisode, a été un petit peu gommé, mais ça reste toujours un petit peu dedans. Et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, entre autres, parce que l'interaction entre les différentes personnes, l'interaction entre les différents moments, sans être totalement aiguillé, quand tu les retrouves, c'est hyper gratifiant.
Ouais, mais bon, enfin, je trouve qu'il y a un juste milieu, ou même un petit aiguillage, ça aurait quand même pas été trop.
Ouais, mais enfin bon, c'est quand t'as joué à Ninja Gaiden, t'as eu du mal avec ça aussi, donc c'est pour ça, je ressors les dossiers.
Hein. Sinon, oui, en jeu, après, il y a Gregory Horror Show. Alors, celui-là, c'est vraiment un parti pris au niveau graphique et au niveau histoire. Alors, la légende dit que c'est le jeu qui aurait été développé par Pure Fun, par les équipes de Resident Evil. Ouais. Et ça reprend un petit peu le huis clos, sauf que là, cette fois-ci, on ne sort pas du tout d'un château. C'est une espèce de résidence prison où on doit s'échapper et tout ce qui est c'est assez marrant parce que c'est assez enfantin comme jeu, mais dedans il y a des thèmes quand même d'horreur, même s'il n'y a pas de choses explicites qui font, ça fait un décalage qui est assez sympa et même à jouer j'en ai gardé un très bon souvenir. Et sinon après bon niveau horreur il y a énormément vous parliez de Clock Tower, j'ai fait le 3 sur PS2 qui est très sympathique aussi, Deep Fear, je sais plus si j'en ai parlé, qui est une sorte de Resident Evil sur un bateau, mais on
c'est
peut
pas mal, c'était bien, il y avait ça tanguait, c'est ça hein, sur ce bateau, c'était
oui, c'est celui-là ouais.
Bon, j'ai essayé sur PC celui-là ouais. Le principe me plaisait bien, mais au bout d'un moment, j'étais un peu bazouilleux, donc bon.
Motion sickness forever.
Sinon, ouais, il y a les Dinotheus aussi, qui, moi, c'est une série que j'adore.
Alors ça,
vraiment.
Je veux bien que tu développes un peu, parce que je suis passé totalement à côté, je veux bien que tu développes.
Alors, les Dinocrisis, on va démarrer sur le premier, donc c'est, on va dire, pour simplifier, c'est un Resident Evil avec, où, pour lequel tu remplaces en fait les zombies par des dinosaures.
Meilleure idée. Les mecs, le processus de pensée. Eh les mecs, vous savez quoi? Eh, idée les copains. Si on faisait Resident Evil avec des vélociraptors. Oh putain, c'est génial, putain.
Mais tu te moques, mais ils ont mis des samouraïs.
Non,
ça,
moi
ça
je
donnait...
me moque. Non, jamais.
Ouais. Non, mais ils ont, pour Onimusha, c'est un peu comme ça que c'est né, quoi. C'est un Resident Evil avec des ninjas.
Ouais, et des doubleurs marseillais.
Oh, plus cher, Onimusha, là, il fait arriver la cagole, mais alors, nous sommes au Japon médiéval. plus beau le sushi. Quoi.
Plus beau le sushi, ouais. Featuring Jean Reno.
Pour Dino Crisis, on est sur la même maniabilité que, enfin le premier en tout cas, c'est la même maniabilité que Resident Evil, ouais, c'est ça, hein, ouais. Parce que je l'ai pris sur PSP, sur la version PS Store. J'ai eu un peu de mal à rentrer dedans quand même, hein. D'une part parce que.
Mais si t'as eu du mal à rentrer, c'est parce qu'ils ont tous un mal.
J'avais pas la clé. La clé. Il y a plein de portes fermées dans ce jeu. Bon, il y a le fait que, putain, pour sauvegarder, c'était long. Moi, j'ai plus le temps de faire des sessions d'une heure, donc ça m'a un peu saoulé là de me taper une longue période sans pouvoir sauvegarder. Et c'est vrai que sur une PSP, je sais plus qui la dernière fois posait la question de savoir si c'est les jeux sur portable, ça faisait le même effet. Non, ça fait pas le même effet hein, niveau implication. Moi, j'ai fait, enfin, le Resident Evil sur DS, je l'avais acheté. Bon, j'ai bien aimé le refaire sur portable dans mon lit, mais c'est pas. On peut pas dire que ça fasse le même effet que sur l'écran.
Par duquel Resident Evil
et ben,
de Resident Evil
sur DS, ouais, c'est ça, Deadly Silence. Ouais. Le remake du 1, c'est ouais,
vraiment le
tout ça.
Ouais. Je sais pas si t'as eu l'occasion de faire sur 3DS
le dernier,
sur le bateau. Donc fais gaffe, c'est sur un bateau. Mais c'est.
En plus avec la 3D là, c'est meilleur moyen d'être malade.
Non mais vraiment.
Mais il tanque pas sur. Ouais.
Mais il est tellement bien d'ailleurs qu'on parle de plus en plus d'un remake sur console.
Ça sera fait. Ouais,
ça a été confirmé.
Ouais, c'était confirmé. Hein.
Mais attends, mais en tant que modérateur, tu dois lire tous les posts du forum. Ah, c'est écrit sur le forum ça.
Mais j'ai une vie. J'ai une vie, moi, monsieur. Donc Dino Crisis, des dinosaures, de la survie, mais que demande le peuple?
Voilà, mais vraiment de la survie, parce que les dinosaures, ça a la peau dure.
Et puis c'est plus intelligent qu'un zombie, parce que ça sait ouvrir les portes.
Voilà, c'est ça qui est
comme
assez génial.
Comme un chat.
Il faudrait faire des survival avec des chats, ou, comme ces films de série B. Ça
juste pour avoir le plaisir de pouvoir les tuer.
Ouais.
Égorgeons les chats. Ouais.
Mal de tuer les chats, bande de sauvages.
Ça serait un charnage. Oh, ça va, c'est largement au niveau de ce que tu nous proposes. Hein.
Non, attends, il y en a qui appellent ça de la chance, moi j'appelle ça le talent. Hein.
Ouais, c'est ça.
Bon, pour rester dans les citations que tu affectionnes tant, Léonard de Vinci est médiocre l'élève qui ne dépasse pas le maître.
Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, Dino Crisis, d'autres petites perles, Deep Fear qu'on a évoqué, donc deux jeux qui sont chroniqués sur Gros Pixel.
Il y a Galerian, est-ce qu'on peut le rentrer dans ce genre de...
Bah justement, j'ai...
Oui, oui.
Moi, je le rajouterais bien dedans.
Oui, oui.
Ça, on retrouve un peu les... Ouais.
Je connais pas, c'est sur d'ailleurs, quoi, ça je finis. C'est encore sur PS2, ça
PS1.
Ah
PS1.
Bah voilà, ça... Ouais,
non,
sur
PlayStation.
Non, les gars... Donc, sans
mais
doute,
était bien.
Les PlayStation, c'est un univers qui m'est totalement inconnu.
Ah, c'est... Ça brûle un peu les yeux, faut éviter la 3D sur la PS, mais... Celui-là, ça reprend un peu vraiment le côté Resident Evil avec des décors fixes en 2D et un personnage en 3D dessus qui va se déplacer. Et, je l'ai fini, donc Galerian, je l'ai fini il y a un an et demi. Donc j'avais commencé un papier que j'ai pas fini depuis.
Que voilà. Tu vas faire le plaisir de terminer pour le site, merci.
Ouais, mais j'ai d'autres papiers là qu'il faut que je finisse avant, mais promis, j'oublierai pas. Mais non, il y avait une très bonne ambiance. C'était vraiment plus axé sur le surnaturel, parce que ça rappelle un peu, on va dire, de très loin. Mais dans l'idée, c'est ça, c'est Akira, parce que le personnage central a des pouvoirs psychiques et s'en sert pour résoudre des énigmes.
Et puis l'univers est un peu steampunk, si je me rappelle bien. Un petit côté SF.
Pas trop, parce que c'est divisé en 4 niveaux. Le premier, c'est donc un labo, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Le deuxième, de mémoire, c'est un manoir, donc on est dans le grand classique. Après, le troisième, c'était un peu comme comme les jeux LucasArts dans l'idée, où en fait, on est dans un hôtel où plusieurs personnages nous proposent des petites missions à résoudre pour
eux.
Et chacun, il va leur arriver quelque chose que je ne mentionnerai pas. Et le quatrième, c'est un peu plus pas survival dans le genre survie, mais c'est une grande tour jusqu'au boss final où en fait on va enchaîner des combats. Et donc au fur et à mesure qu'on monte dans la tour, on a peut-être une ou deux énigmes à résoudre, mais rien de bien formidable, et jusqu'au boss final qui va nous donner un peu de fil à retordre. Mais ce jeu, oui, non, ça fait partie une des surprises que j'ai eues donc en fouillant mon stock de jeux, parce que j'ai eu une époque où j'achetais un petit peu tout et n'importe quoi, donc t'as toujours un petit peu l'appréhension de savoir si au final un jeu pas cher va valoir le coup, et celui-là j'étais agréablement surpris, oui.
Il faut dire que lors de la période 32 bits, avec le succès de Resident Evil notamment, il y a eu énormément de jeux de type survival horror, donc soit créés par Capcom, on a cité Dino Crisis, mais également Squaresoft s'y essayait, donc Parasite Eve.
Même SNK,
même SNK, tout à fait. Il y a eu ça a été une mode. Après Resident Evil, tout le monde a voulu manger, avoir une part du gâteau survival horror. Mais est-ce que ça s'est fait finalement jusqu'à l'excès? Est-ce qu'il n'y a pas eu, au fur et à mesure du temps, lors de cette période, un rejet de la part des joueurs pour ce genre qui est devenu prédominant à une époque?
Un rejet, non, j'irai pas jusqu'à là. Je dirais que l'offre est devenue peut-être un petit peu trop pléthorique et du coup les consommateurs s'y sont plus retrouvés parce qu'il y avait vraiment énormément de concurrence et en même temps cette explosion ça a dû arriver à la fin de la période de la PS et de la Saturne. Et donc, quand est arrivée la génération 128 bits, c'est vrai que ça s'est un peu calmé, mais comme je disais, il y a quand même encore beaucoup de survival, mais c'est vrai que le genre a été supplanté par maintenant tout ce qui est FPS, TPS. Mais ça continue encore, je dirais que c'est un peu, pour caricaturer, c'est un peu comme le jeu de baston, ça a eu sa grande période. Il y a eu des clones à tout va. On a cru à un moment que ça allait mourir, mais ça continue à
C'est normal,
perdurer.
c'est le principe du
Et
zombie.
là, maintenant, ça continue à vivre sa petite vie avec des épisodes de grandes licences et de temps en temps des nouveautés comme Dead Rising qui arrivait sur Xbox 360 et qui est une nouvelle
Sur
licence.
DS, la
Et
licence des
là,
Dementium.
comment tu dis?
Il y en a eu quoi? Il y a eu deux épisodes
Ouais, il y a eu deux épisodes qui sont vraiment très très bons.
Ouais, mais tu vois, c'est pareil. Le premier, j'ai essayé. C'est bien fichu. C'est sur portable et la sensation de peur, pas trop quoi.
Mais dans le noir, tout seul dans ta chambre. Avec une couverture sur la tête.
J'ai fait ça.
On avait évoqué, je crois, la dernière fois la différence d'investissement entre un survival horror sur console portable et un sur console de salon. C'est pas du tout les mêmes sensations. C'est peut-être bien pour cela, d'ailleurs, que le genre a plutôt fleuri sur console de salon, sur PlayStation, Saturn et ce qui s'ensuit que sur console portable. Après, il y a sans doute également d'autres paramètres techniques, notamment, on a dit, voilà, c'est la taille de l'écran, c'est des jeux qui sont assez cinématiques,
et
avec
qui demandent
une
une
certaine
ambiance sonore
recherche,
aussi, assez importante.
voilà, il faut qu'il y ait une ambiance
Oh, mais ça,
sonore, il
l'ambiance
faut qu'il
sonore,
y ait tous ces
l'ambiance
éléments-là.
sonore,
casque, c'est
avec
pas
le
mal, hein.
casque, ouais, c'est pas un souci. Bon,
Un truc dont on n'a pas parlé la dernière fois, par contre. Je disais, ce qui était intéressant sur la première Xbox, c'était leur capacité à essayer de trouver des nouveaux concepts sur le survival. Il y a eu pas mal de tests sur des survival en vue première personne, dont un jeu de Midway, dont je me rappelle pas le nom, qui était dans un complexe spatio-militaire dans le futur, des tests un peu psychés pour quelqu'un qui devait s'échapper en vue en première personne et qui était vraiment basé sur le principe survie qui était très intéressant. Mais j'arrive pas à me rappeler du nom de ce jeu, peut-être que vous allez pouvoir m'aider, mais
je vois pas trop là.
Ah bon, on peut pas compter sur
ben
vous.
non, pas pour ça.
Ren?
T'as pas une idée?
Oui.
Pas non plus.
Ça te dit quelque
pourtant,
chose?
Pourtant c'est un jeu Midway, tu devrais savoir.
C'est ce que je me disais.
À sortie des Mortal Kombat, les Midway,
ouais, c'est Midway,
je connais pas
Jaleco,
trop.
Hein, c'est peut-être un des deux. Faudrait demander à Nekoff et à
C'est
Nordine, parce
pas...
qu'ils l'ont fait tous les deux, ils en avaient parlé sur GP, et...
T'es sûr que c'était pas un
Non,
jeu
non,
Namco,
non, non, non,
plutôt?
non, 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 c'est pas, c'est justement, c'est pas le Namco, parce qu'il y a eu un jeu quasiment similaire qui est sorti, mais c'était pas celui de Namco, c'était un jeu
Ouais.
très ricain. C'est soit du Jaleco, soit du Midway, mais... Ouais, je peux me tromper, hein.
Ah, la question reste ouverte. On demandera donc à nos auditeurs de répondre sur le forum si jamais ils
Chouette, un
connaissent
trivia.
s'ils connaissent le jeu que tu évoques. Effectivement, il y a eu quelques entreprises comme ça, plus ou moins couronnées de succès pour renouveler un peu le survival horror. On évoquait rapidement entre nous Eternal Darkness, par exemple, sur GameCube, qui a été l'un des jeux fer de lance de GameCube, qui jouait avec les attentes du joueur, avec ces fameuses scènes de corruption de sauvegarde
et
qui est maintenant
aussi s'inspirait de
rentré dans
Lovecraft
la légende.
Et de la
Voilà,
gestion de la
tout à
santé
fait.
mentale. Enfin, la gestion de la santé mentale, c'était quelque chose d'assez Bah, c'est intéressant parce que au début tu joues, bon t'as tes points de vie, enfin t'as ta barre de vie, t'as ta barre de santé mentale, tu fais plus gaffe naturellement à ta barre de vie parce que tu sais très bien que si elle arrive à zéro, c'est terminé. Santé mentale au début tu te poses pas trop de questions jusqu'au moment où effectivement il y a des trucs bizarres qui apparaissent à l'écran ou... et c'est là que tu dis ah oui mais merde effectivement il y a ma barre de santé mentale là qui est vachement basse, c'est peut-être pour ça que l'écran s'est retrouvé inversé,
je me mets à marcher au plafond,
je comprends pas, je viens d'ouvrir une porte, je me retrouve dans le même couloir.
Ah, c'était intéressant comme processus.
Mais bon,
en
même temps, ça
détonnait dans...
Il suffit de jouer bourré. Hein.
Non, mais bien sûr, mais tous les ingrédients, je pense, si on fait un peu l'historicité de ces trucs-là, on n'aura aucun mal, je présume, à retrouver des titres antérieurs qui exploitaient déjà ces données de santé mentale, d'hallucination, dans des jeux, que ce soit des Survival Horror ou d'autres jeux... d'un genre
bah,
différent.
C'est-à-dire que là, mais sauf que là, c'est vraiment le joueur, c'est pas le personnage qui a des hallucinations, enfin, il y a des hallucinations sur le personnage, mais c'est surtout le joueur qui est concerné par ces hallucinations. Tu vois, c'est pas le joueur qui subitement voit apparaître un dinosaure. Le joueur, il va pas voir apparaître la sauvegarde corrompue ou le volume qui se met à baisser subitement. Enfin, c'est vraiment sur le joueur que ça joue. Pas sur son avatar.
Tout à fait. Le survival horror, on l'a évoqué, on y revient toujours, est un genre polymorphe, protéiforme, qui va plus taper dans l'action, dans la psychologie, que ce soit au niveau des personnages du jeu, jouer avec les attentes du joueur. Aujourd'hui, comme on l'a souligné, peut-être est-il passé un peu en second plan, par l'effet des modes, par le fait que certains jeux ont plus de succès aujourd'hui que le survival horror on avait à l'époque des 32 bits. Malgré tout, ça reste, il me semble que lorsqu'on parle de jeux vidéo, lorsqu'on évoque jeux vidéo, les joueurs citent très régulièrement ce genre de jeu. Il est... par son implication interactive, il est quand même très très lié aux médias dans son
ensemble.
Ouais,
mais attends. Le truc, c'est que, enfin, du moins à mon humble opinion, qui n'engage que moi-même et moi-même, je pense que quand tu regardes, on met en perspective les débuts du survival horror, c'est les premiers jeux avec gros guillemets, ultra guillemets, adultes. Et que à aujourd'hui, qu'est-ce qui est considéré comme un jeu adulte? C'est un Call of Duty Black Ops 2, c'est un énième TPS dans un univers soit futuriste, soit rétro, soit actuel, soit pseudo-actuel, soit... Enfin bref, mais peut-être que aujourd'hui, ce principe de survival horror... Au même titre qu'au cinéma où tu as eu une période où tu étais vraiment sur le full action movie Michael Bay Forever, autant aujourd'hui tu as un petit retour, même si ça s'est calmé un peu, mais il y a 4-5 ans, il y a eu un vrai retour du cinéma d'horreur qui était redevenu un cinéma de qualité, entre guillemets, où les mecs avaient pas envie juste de faire couler du ketchup. Et justement, est-ce que c'est pas cyclique? Il y a ce cycle dans le cinéma, est-ce que le cycle, on va pas l'avoir aussi dans le jeu vidéo? Parce que autant tu as aujourd'hui énormément de FPS, TPS, réaliste, pseudo-réaliste, futuriste, pseudo-futuriste, etc., autant à l'époque, t'avais des survival horror qui te permettaient de te faire peur et de te dire « Oh mon Dieu, je suis en train de jouer à quelque chose d'adulte, ouhouhou, ça va être interdit au moins de 18 ans, non maman, ne rentre pas dans ma chambre !»
Non mais je pense que le jeu vidéo, au même type que le cinéma ou la littérature ou tous les médias en règle générale, sont sujets aux modes, de toute façon, que ce soit le public qui les crée ou bien les auteurs.
Mais ça c'est uniquement sur PC les modes.
Ils font une émulsion. et effectivement, oui, il n'est pas interdit de penser que d'ici quelques années, les survival horror vont revenir sur le devant de la scène.
Le jour où ils vont nous sortir des vrais casques de réalité virtuelle, là, et ça va être formidable. Hein, avec les capteurs avec le machin présenté par.
Il y a Kinect,
tu auras tes yeux qui sont voilà. Vraiment.
Tu sauras vraiment. Pas comme ça. Quand on sera vraiment enveloppé par le jeu.
Tu parles de, du projet Illumiroom.
Non, je parle pas du projet Illumiroom. Je parle d'un vrai casque, hein. Comme il y a 20 ans. Comme on devait avoir il y a 20 ans.
Mais ça n'existera jamais,
c'est,
ça.
Ça existait dans le cobaye.
Dans le cobaye, ça marchait.
Et le Virtual Boy, t'as oublié Virtual Boy?
Dans le cobaye, ça marchait. Donc, il n'y a pas de raison, hein. Donc tu ajoutes le casque de réalité virtuelle plus le sensor machin que Iwata nous avait présenté, je sais plus quel Cube, là, qui est censé,
plus une combinaison totale où tu prends des décharges électriques, voilà. Là où ça fait mal.
Et là, Survival Horror.
Voilà. Et là, jamais tu joues à Double Dragon, parce que si tu prends un coup de pied dans les couilles.
Et là, t'auras vraiment la sensation de la peur.
On n'arrête pas le progrès, comme on dit. Bien, alors, je vous propose que l'on s'arrête là pour les Survival Horror. Est-ce que il y a encore un petit quelque chose que vous désirez ajouter avant que l'on ne se quitte?
Oh, ben, vas-y.
Moi? Ouais, non, j'allais dire ce que tu parlais de... c'était un peu cyclique et j'aurais bien aimé... Je me demandais surtout comment allaient réapparaître les survivals que je vois sur Dead Space par exemple, où on est même toutes les séries comme Resident Evil, Silent Hill, où on était passé d'un côté vraiment basé sur la tension à du tout action pour un petit peu surfer sur la mode actuelle. Et donc je me demandais, j'espère même que la prochaine fois où il y aura vraiment un gros hype sur le survival, j'espère vraiment qu'on va revenir à quelque chose de plus plus huis clos. Je vois le chef de Resident Evil, là, enfin le chef comment le
oui,
producteur
j'étais parti de
le producteur, oui, il parlait de l'orientation de Resident Evil, et que le 6 a été assez mal reçu, qu'il envisageait peut-être de revenir un peu aux sources. C'est quelque chose, qui serait assez intéressant, parce que là, on est un peu dans une orgie de, on est abreuvé sous les balles, on dégomme du zombie, il y a plus l'attention qu'il y avait avant, quoi, comme tu disais tout à l'heure. On a remplacé l'attention par le sentiment d'être submergé et c'est pas la même peur, c'est un peu moins prenant. Je sais pas ce qu'en pensent les autres.
C'est vrai qu'il y a eu une évolution à ce niveau-là de la problématique survival horror, peut-être aussi pour s'adapter à la mode des joueurs, puisque comme on disait, c'est les Call of Duty, c'est les jeux plus action. Plus orienté à action qui marche aujourd'hui, et donc de fait le survival horror a essayé de prendre le train en marche. Effectivement, c'est possible qu'une fois que cette mode du tout action se sera un peu accalmée, que le genre du survival horror revienne vers ses premières amours. Mais ça, seul le temps possède la réponse, comme on dit. Bien, messieurs, je vous remercie de m'avoir tenu compagnie au cours de ce 9e numéro et 2e parlant des Survival Horror. Nous serons de retour très bientôt dans le gros casque, sans doute peut-être avec un autre habitué du forum qui viendra participer à cette émission. Rain, j'espère
que... Je vais te couper, mais t'as dit gros casque.
Oui.
Un gros casque.
Je fais
toujours cette erreur.
Ou bien...
Il vous faut un gros casque pour écouter le gros cast.
Pour l'immersion, c'est mieux.
Et si vous avez des grosses couilles, c'est parfait.
Oula.
En tout cas, Rainmaker, j'espère que tu as apprécié l'expérience en notre compagnie. Ça t'a plu?
Oui, ça m'a plu. J'aimerais bien revenir, d'ailleurs.
Tu reviendras peut-être un jour si on parle de Mortal Kombat. Je suis sûr que tu auras encore plein de choses à nous dire à ce niveau-là.
Et comme il parle pas beaucoup, on peut le prendre en invité presque permanent. Hein. Ça fait pas beaucoup au montage.
Mais non, c'est pas lui qui parle pas beaucoup, c'est toi qui parle beaucoup. C'est pas pareil.
Oui, mais c'est normal. Mais tu sais, la nature a horreur du vide.
Mais quoi, Mwakoum. Bon, l'oreille, elle est hardie, là. Vous arrêtez.
Mais c'est pas hardie, c'est les deux vieux du mopette.
Ha 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 ha. Donc nous vous disions à très bientôt pour une prochaine émission. Nous allons nous quitter par un gros mix cette fois-ci de Gargoyle's Quest pour rester un peu dans le thème de l'horreur, même si ici c'est une horreur un peu parodique. Et l'on se retrouve d'ici à peu près un mois et demi pour la 10e émission du Grocast.
Et on va d'ici on parle là... de musique. Excuse-moi, je voudrais juste rajouter un truc. Parlant de musique et quand on parlait de survival horror, il y a un morceau absolument génial d'un groupe français qui s'appelle Ponyhawks. Sur leur premier ou deuxième album Image of Sigrid qui s'appelle The Soundtrack of Your Fear, absolument à écouter et repenser au moment de Survival Horror & Co. Je vous engage à écouter, mais franchement ce morceau qui est absolument fantastique, qui va totalement crescendo dans la flip et qui est vraiment très très bon et qui rappelle énormément de moments des Survival Horror.
Très bien, le message est passé, nous écouterons ça avec grand intérêt. Il est l'heure de se quitter, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.